Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Patrick Régis. Au micro, Christiane Blain. C'est dans le Perche que j'ai rencontré Claude Maïka de Grèze. Son dernier livre venait de paraître, L'animal que vous serez demain. Il venait de paraître et j'ai voulu en savoir plus sur cet ouvrage et c'est pourquoi je remercie Claude Maïka de Grèze d'avoir accepté mon invitation. Claude Maïka de Grèze, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, licence de psychologie à la Sorbonne, maîtrise de psychosociologie et maîtrise d'ethnologie, vous êtes passionné par les comportements individuels et culturels. Chargé d'études à l'Institut de recherche, vous fondez l'Ipsos, un institut de sondage, puis Émergence avec le groupe Publicis pour des études qualitatives et créatives. Vous organisez des conférences, un vrai beau parcours. Si dense que j'ai peur d'avoir oublié certains événements. J'ai oublié beaucoup d'événements, Maïka.
Non, sauf que je ne travaille plus sous le nom d'Émergence et que maintenant je travaille sous l'entité qui s'appelle Restart, oui. Ou en français Restart, parce que tout le monde ne prononce pas bien l'anglais.
Oui.
Et ça veut dire aussi que je mets ma petite touche pour faire évoluer soit les entreprises, puisque c'est souvent mon terrain d'action,
oui.
Soit les individus qui veulent effectivement s'adapter au changement de notre société.
Voilà, donc on peut vous contacter pour avoir des rendez-vous, pour que ce soit une société ou des individus.
Oui, d'ailleurs au niveau des personnes avec qui je suis en contact, je fais ou des conférences professionnelles, où je fais aussi des stages qui sont des ateliers de 3 heures, voire une journée, sur une évolution personnelle ou professionnelle.
Alors, j'ai beaucoup aimé votre ouvrage parce que votre propos sur les animaux est vraiment tout particulier, puisqu'il explique comment l'énergie des animaux va pouvoir nous aider à voir la vie en quelque sorte sous un nouvel angle, une sorte de vraie philosophie. Et c'est cela qu'il faut expliquer à nos auditeurs, parce qu'on va voir comment eh bien, il faut choisir un animal, c'est bien cela.
C'est en partie cela. Alors, parce que, par exemple, nous ne sommes pas réductibles à une seule dimension ou à un seul animal.
Bien sûr.
Mais le fait de se projeter à travers des animaux, ça nous aide à décoincer un peu le nez dans le guidon. C'est-à-dire, en tant que psychologue, j'ai souvent repéré que si on s'identifie, je ne sais pas, par exemple, à un aigle ou un castor ou une abeille, etc., c'est beaucoup plus facile de parler de l'animal,
oui,
que de parler de soi. Mais en fait, j'en joue, c'est-à-dire à travers cette projection, ça permet de dénouer quelques blocages ou quelques visions un peu restrictives.
Oui. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand je vous ai rencontré au fil de nos conversations, vous m'avez dit « vous êtes une abeille ». Et c'est vrai que j'aime bien l'abeille. Et donc, nous allons en reparler au cours de cette émission parce que vous avez choisi 12 animaux qui vont donc nous aider à mieux comprendre et notre éveil personnel et notre éveil professionnel et aussi notre éveil spirituel, ce qui est vraiment 3 dimensions.
De nous-mêmes.
Voilà, et de nous-mêmes, nous-mêmes.
Alors on peut choisir, on n'est pas obligé d'évoluer à tous les niveaux en même temps, à moins qu'on soit très, très ouvert, mais on peut à un moment de la vie se dire, tiens, il faut que je règle quelques problèmes relationnels ou personnels. Bon, après, notre société n'étant pas très facile en ce moment, beaucoup de personnes sont obligées de se repositionner professionnellement. Et puis spirituellement, ça c'est la porte ouverte qu'on n'ouvre pas selon son attitude vis-à-vis cette dimension.
Et moi je dirais qu'elle est quand même la plus importante.
Elle est la plus importante et elle est la plus permanente.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on ne se la pose pas tout le temps. Ne serait-ce que quelquefois justement parce qu'on est occupé par un quotidien qui est prenant.
Voilà.
Mais pourquoi je vous ai dit abeille ? Écoutez, je ne connaissais pas beaucoup. D'abord, quand on s'occupe d'une radio, on est bien obligé de butiner l'information.
Voilà, de piller de ça, de là.
De piller de ça, de là.
Et
puis, peut-être parce que, alors pour être honnête aussi, parmi les animaux, on a quand même des préférences avec certains animaux, on a des proximités.
Oui.
Bon, eh bien, par exemple, moi-même, je me sens très abeille, puisque j'ai passé beaucoup de temps de ma carrière à aller butiner des informations en études de marché. Donc, un peu dans tous les pays, j'ai été butiner les informations au Japon, en France, aux États-Unis, oui, etc. Donc, l'abeille, je les reconnais, les autres abeilles, parce que ça me ressemble plus.
Oui. Bon. Alors, dans chaque éveil, vous avez choisi 4 animaux.
Oui.
Et alors, ces animaux, c'est eux qui vont nous aider à mieux nous comprendre.
Voilà.
Alors, comment vous avez fait vous-même pour choisir ces animaux ?
Alors, oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, parce que je vais la présenter à l'inverse. On me dit, ah bah oui, mais vous n'avez pas mis cet animal-là ou cet animal-là. Alors, bien sûr, j'aurais pu en mettre 50, mais j'y serais encore.
Oui, sûrement. Alors justement, c'est important de savoir
eh bien
quel
oui,
a été votre critère.
Parce que j'ai choisi. Alors c'est vrai que ça engage mon angle de vue.
Mais
enfin
oui,
après
mais
tout, quand on est auteur, on a un angle de vue. Et parce qu'il me permettait de mieux illustrer les transformations de la personne. C'est-à-dire que le livre, ça ne se voit pas radiophoniquement, mais il est quand même très illustré. Et
oui,
j'ai demandé effectivement à l'illustratrice de faire une illustration de début et une illustration de la fin. Globalement, pour montrer un peu en image l'évolution que l'on peut faire à travers un chapitre.
Oui.
Donc, d'ailleurs, ce sont des animaux choisis pour ça, en fait. Comment ils nous aident à nous transformer ?
Alors, ce qui est très bien dans votre livre, c'est que vous expliquez et vous donnez des exercices à faire.
Oui. Alors ça, oui, d'ailleurs, parce que bon, il y a dans le travail d'accompagnement de psychologues ou même de gens qui sont coachs,
oui,
bien sûr, le regard des autres est très utile,
oui,
parce qu'on ne peut pas toujours se voir soi-même. Mais nous sommes arrivés quand même à une époque où moi, je pense qu'on peut se faire de l'auto-coaching.
Oui, c'est ça.
Alors, je donne quelques ficelles, qui sont d'ailleurs des exercices qui sont pas forcément de moi, qui sont de psychologues ou de créateurs mondiaux, avec évidemment leur autorisation. Mmh. Ça a quand même un avantage aussi, c'est d'abord de pouvoir se les appliquer soi-même, mais ça évite aussi d'acheter tous les livres de développement personnel et de spiritualité. Après, si on veut creuser un exercice parce qu'un auteur nous a davantage plu, on peut toujours acheter son livre et je donne toutes les références.
Oui, alors moi j'aime beaucoup votre livre parce que justement il est très complet.
Ben, c'est effectivement un livre où j'ai choisi des animaux illustrateurs de transformation.
Oui.
Et à l'intérieur de chaque chapitre, on va en parler j'imagine, oui, il y a plusieurs niveaux. Il y a les symboles, il y a les contes, et puis il y a les exercices, puis il y a les messages, et puis il y a Internet, où est-ce qu'on peut aller chercher de l'info, etc.
Exactement. Donc, alors, peut-être ce serait bien qu'on commence par l'éveil personnel. Hein? Alors, en quelques mots peut-être, à propos de cette recherche pour l'éveil personnel, quel a été votre but aussi ?
Alors, l'éveil personnel, c'est un sentiment. D'abord, l'homme est quand même assez résistant pour évoluer.
Oui.
Nous en faisons partie.
Oui, oui, bon, c'est sûr.
Donc, quelquefois, on ne change que quand on est obligé de changer.
Mmh.
Donc, souvent, il y a une situation qui n'est pas confortable, voire douloureuse.
Mmh.
Et effectivement, dans cet éveil personnel, bah, comment dépasser certains blocages ou certaines difficultés que l'on peut avoir, ou aussi on peut le considérer comme une ouverture, une façon de voir plus large. Je disais tout à l'heure, le nez dans le guidon, c'est aussi un défaut, parce que la vie nous organise comme ça, et que bah, de temps en temps, on n'a pas le temps de regarder à gauche et à droite, ou de réfléchir un petit peu plus tranquillement.
Alors, dans ce chapitre, éveil personnel, il y a plusieurs animaux.
Oui.
Il y a le loup, il y a le singe, il y a le dauphin et le colibri.
Voilà.
Alors, peut-être pour nos auditeurs, on pourrait choisir un animal et on ferait tout le chapitre sur cet animal pour que nos auditeurs comprennent comment
on rentre dans le livre.
Et comment on rentre dans le livre et comment aussi on peut faire des progrès.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, bah, écoutez, moi, je pense que tu as un petit peu réfléchi là. Bien sûr, le loup est plus connu dans le côté méchant loup et bon loup.
Oui.
Bah, déjà, vous comprenez qu'on démarre par le méchant loup et qu'on finit par le bon loup. Mais je pense que ce qui serait assez parlant serait de parler du colibri. parce que c'est un animal très symbolique. Il a été pris d'ailleurs comme symbole par Pierre Rabhi, qui est l'agriculteur paysan philosophe.
Oui, et on l'a beaucoup vu à la télévision.
Qu'on a vu beaucoup à la télévision, qui a écrit beaucoup de livres. Et il a même appelé, si vous voulez, son mouvement colibri.org. Donc je vous renvoie déjà sur Internet pour effectivement retrouver tout ce qu'il peut raconter. Mais je vais d'abord vous raconter, lui-même s'appuie sur un conte qui est un conte amérindien. Alors, oui, pour les auditeurs, ça sera amusant qu'on prenne ce conte, et ce conte où les légendes, où je me suis même servi des fables de La Fontaine.
Oui, si vous pour voulez, la tortue, j'ai remarqué.
D'ailleurs, j'aurais pu le dire au départ, en exergue du livre, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Et cette phrase n'est pas de moi, mais elle est de Jean de La Fontaine.
Oui,
donc vous voyez que le principe, je ne l'ai pas inventé, je suis psychologue, d'accord, mais... C'est une bonne façon de se regarder autrement. Alors, revenons au colibri. Et il y a une jolie légende amérindienne qui s'appelle « Je veux être un colibri ». Alors, en fait, c'est une histoire d'un colibri qui se trouve dans une forêt qui est dévorée par le feu. Les incendies épouvantables. Les pauvres animaux de la forêt sont affolés, paralysés. Ils regardent la forêt en train de brûler, mais ils ne savent vraiment pas quoi faire. Ils se sentent impuissants. Et puis, le colibri dit « Moi, je vais faire quelque chose à propos de ce feu. » Et il prend, au ruisseau le plus proche, il prend une petite goutte d'eau. Vous savez que les colibris, ça vole extrêmement vite.
Oui. Hein,
70 battements d'ailes par seconde, c'est assez affolant.
Oui.
Et il va porter sa petite goutte d'eau dans le feu. Bon. Et puis, il recommence. Et, bon, les animaux plus gros que lui auraient pu faire plus. Par exemple, les éléphants ont quand même une capacité... De prise d'eau plus importante qu'un colibri. Alors, les autres animaux lui disent « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. À quoi ça sert? Tes ailes sont trop petites, ton bec est minuscule, tu vas pas apporter une goutte d'eau à chaque fois pour éteindre le feu de la forêt. » Effectivement, ils essayent de le décourager parce qu'ils se sentent un petit peu coupables. Et lui dit « Oui, je sais, mais je fais ce que je peux et je fais ma petite part. » Et j'adore ça parce que, bon, on en parlera après. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le toucan se met à faire pareil, en se disant, moi j'ai un bec un peu plus grand, donc je peux y aller. Et puis, et après 10 toucans, 100 toucans, et puis voilà que les éléphants se mettent quand même à se bouger avec leurs grandes trompes. Et voyant que tous les animaux s'y mettent, les villageois s'y mettent aussi. Et résultat, au bout du compte, y a eu des pieds roussis, il y a eu des plumes brûlées. Mais c'est quand même le colibri qui a sauvé la forêt. Moi, j'adore ce conte.
Oui, moi aussi. Je veux dire que ça, c'est une belle image, que c'est vrai qu'on peut tous apporter notre petite contribution.
Voilà. C'est très facile de faire une analogie. C'est ce que je vous appelle regarder à travers le regard des animaux. On comprend tout de suite que si on met notre petite contribution dans la société, on sait très bien d'ailleurs que souvent les choses arriveront par des petites contributions plutôt que d'un haut pouvoir hiérarchique. Ça, c'est un autre...
Voilà.
Alors, ce qui était drôle dans l'histoire du colibri, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un autre conte chinois qui avait la même approche. Alors là, c'était pas tout à fait la même histoire, mais c'est drôle, parce que c'est un éléphant qui voit un colibri qui était couché sur le dos avec les petits pieds en l'air. Alors l'éléphant lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, les pieds en l'air ?» Et le colibri lui dit « J'ai entendu dire que le ciel pouvait s'effondrer aujourd'hui, je suis prêt à l'aider à tenir le coup pour qu'il ne tombe pas. » Et, bon, évidemment, l'éléphant se met à rire de façon très moqueuse et lui dit « Mais enfin, penses-tu que tes petits pieds vont retenir le ciel ?» Et dans l'histoire chinoise, le colibri reste les petits pieds en l'air, toujours voué vers son objectif, et dit « Pas seul, mais chacun doit faire ce qu'il peut, et c'est ce que je peux faire. » Et moi, ça m'a frappé parce qu'en fait, c'est deux légendes qui sont des deux bouts du monde, entre les Amérindiens et les Chinois. Et en fait, ça a apporté cette image du colibri qui est à la fois partageuse et collaborative et qui, moi, me plaît beaucoup.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons faire une pause musicale. Je suis toujours avec Claude Maïka de Grèze qui a écrit « L'animal que vous serez demain » aux éditions Guy Trédaniel. Alors dans ce livre, nous avons vu qu'il y avait plusieurs animaux, tout cela pour notre éveil. Alors nous avions vu, au cours de cette première partie, D'abord, l'éveil personnel, et nous avions pour cela illustré avec le colibri. Alors, vous n'aviez pas tout à fait terminé d'évoquer
non,
le colibri.
Non, mon petit colibri, il agite les ailes parce qu'il a envie de s'exprimer. C'est effectivement chez les Amérindiens, quand un oiseau-mouche apparaît, tout ce qui est joie et guérison suit. Donc, c'est un animal qui prône la joie et l'amour. Alors, nous pouvons nous en tirer, grâce au regard du colibri, tout un côté plus optimiste. Je trouve qu'en ce moment, c'est quand même intéressant d'essayer d'avoir un regard plus optimiste. Et je vais juste vous dire une petite citation que je trouve intéressante de Winston Churchill. « Un pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. » Si on pouvait regarder les choses comme ça, ça irait mieux.
Oui. Une autre que j'aime beaucoup,
oui.
Les gens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux. Dans
Absolument.
Votre livre, il y a vraiment
fond,
des pépites.
Et c'est vrai que c'est, soyons sérieux, rions beaucoup.
Voilà.
Et dans le côté rions beaucoup, par exemple, un exercice, parce que dans mon livre, il y a plusieurs exercices.
Oui.
Il y a des petits exercices tout simples à faire, et en particulier l'exercice du sourire. Bon, moi qui habite la région parisienne, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait un groupe sur Facebook qui s'appelle les réenchanteurs du métro parisien. Parce que tout le monde sait bien que tout le monde fait la tête à Paris dans le métro. Mais si vous essayez de sourire,
oui.
Ou même on en parlait tout à l'heure, Christiane,
oui, oui.
Si vous souriez aux personnes dans le train, d'un seul coup, il se passe autre chose.
Voilà.
Donc ça, c'est un petit exercice tout simple. Oui. Il suffit de remonter les zygomatiques.
Exactement.
Et ça marche. Vous pouvez le faire aussi de façon un petit peu plus profonde en faisant un exercice de méditation par le sourire. C'est-à-dire vous mettez les yeux fermés, assis ou allongés, et vous souriez par tous les éléments de votre corps. Alors vous pouvez commencer par la tête, donc vous souriez par le front, par les yeux, par le nez, par la bouche, et puis vous descendez jusqu'aux doigts de pied qui doivent terminer en éventail, puisqu'on connaît, et le sourire, c'est une énergie très, très puissante. Et ce sourire du colibri, il faudrait bien nous le réapproprier.
Voilà. Donc ça, c'était pour l'éveil personnel. Pour l'éveil professionnel, il y a quatre animaux. Alors, il y a l'aigle, le castor, la grenouille et l'abeille. Et vous avez choisi d'évoquer plus particulièrement l'abeille. Pourquoi ?
D'abord, on a commencé à en parler parce que moi-même, je me sens très abeille, ayant fait beaucoup d'études de marché à travers la planète. Et puis, parce qu'on avait une connivence toutes les deux sur le thème de l'abeille, puisque vous-même, vous cherchez, vous butinez les informations. Et cette abeille, effectivement, elle a, on lui connaît bien ses qualités de, comment je pourrais la caractériser ? Je dirais une abeille butineuse et laborieuse.
Oui.
Alors laborieuse, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on n'arrête pas de travailler. Alors quelquefois, il faudrait se reposer, mais bon. Mais cette histoire d'abeille...
Oui, mais c'est aussi la joie dans le travail.
Voilà. Donc nous réhabilitons avec l'abeille la joie dans le travail. L'abeille, si vous voulez aussi, moi je lui... puisqu'elle butine, j'ai beaucoup pratiqué la créativité, c'est-à-dire aller chercher des idées ou réunir des gens pour faire une recherche d'idées.
Oui, alors par exemple, excusez-moi,
oui,
mais vous aviez cité l'autre jour, nous en parlions, cet exercice qui consistait à découper des journaux.
Voilà.
Pour justement faire tout le miel de ce que l'on va trouver.
Oui, alors j'appelle ça le miel multifleur, parce que justement, on va chercher un petit peu partout
alors,
l'information.
Expliquez cette expérience.
Alors je vais l'expliquer de façon simple, mais là je crois quand même que dans le livre, si on veut se le faire soi-même, et je dis que vous pouvez le faire vous-même à un moment où vous posez des questions, à tel point que je me suis posé des questions par rapport au livre et je me suis fait moi-même un tableau collage d'abeilles. L'idée simple, c'est plutôt que de raisonner avec notre cerveau gauche qui est rationnel, c'est de solliciter le cerveau droit qui est plus imaginatif. Alors, vous réunissez, 10, 12 magazines ou journaux, si possible illustrés, enfin plutôt illustrés parce que ça donne plus de fleurs à butiner. Et puis, vous vous posez une question. Par exemple, une chose que je le fais à un niveau professionnel, je dis aux personnes, imaginons votre éveil professionnel, comment voyez-vous votre futur dans 5 ans, professionnellement ?
Oui.
Et puis, chaque personne découpe des images ou des mots qui peuvent lui parler de près ou de loin. Alors ça peut être un soleil, ça peut être aussi quelque chose de moins gai, etc., peu importe. Mais ils font une compilation, si vous voulez, de plusieurs images. Bon, alors après, je donne une grande feuille de papier, genre papier canson, bon, pas un A4, mais enfin un A3, c'est pas énorme. Alors du coup, ils sont très embêtés parce qu'ils ont toute une pile, et là, il faut que ça tienne.
Il faut choisir.
Donc, et c'est volontaire, bien évidemment, ça nous oblige à hiérarchiser ce qui est le plus important. Tout ça se termine par un tableau collage.
Oui.
Alors, il n'est pas obligé de faire un beau tableau collage, c'est tout ce qui est venu.
Oui,
c'est ça qui est intéressant.
Il ne
faut pas trop réfléchir. Et puis, on n'est pas non plus aux Beaux-Arts en train de faire un truc très, très esthétique. Mais on fait un tableau collage et on colle les choses les plus essentielles. Et quand on est dans un petit groupe, où je fais des groupes de 10 personnes, eh bien, on le montre aux autres et les autres vous disent « Tiens, moi, j'ai vu ça, que vous-même n'avez pas forcément vu. Oui. » Et je continue à niveau professionnel. Je dis « Maintenant, vous rentrez avec votre collage chez vous et vous l'affichez. » Sur votre frigo, dans votre chambre, dans votre salon, etc. Et laissez-le pendant un certain temps et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont apparaître qui n'étaient pas forcément prévues au début.
Ouais.
Donc c'est une façon de solliciter, si vous voulez, la partie imaginative du cerveau, plus créative en fait.
Et une de nos amies disait qu'en fait, elle avait vu ce qui s'était passé 5 ans après.
C'est ça.
C'est magique.
Ben c'est assez... oui, alors c'est pas forcément un diagnostic, mais ça permet de... Comment dire? Ça permet de faire sortir... Je me souviens...
Ce qui est dans l'inconscient.
C'est un inconscient. Par exemple, une femme qui voulait se repositionner, elle devait avoir 50 ans, elle voulait se repositionner professionnellement. Alors elle avait envie de voyage, etc. Donc elle met des tas d'images de voyage. Puis quand même, dans un coin, enfin, il y avait une jupe et une main qui tenait la jupe. Alors, je pose la question, c'est quoi ça? Ah ben ça, c'est mon mari qui m'empêche de voyager. Et ça avait été drôle parce qu'elle a pris conscience
de ça, oui,
à travers ça, qu'effectivement, elle avait à régler quelque chose avec son mari là-dessus.
Les animaux peuvent nous éduquer.
Voilà, alors, donc c'est un miel multifleur.
Voilà, donc nous avons vu l'éveil personnel avec le colibri, l'éveil professionnel avec l'abeille. Et j'en viens maintenant à l'éveil spirituel. Et là, vous avez choisi le papillon.
Alors
choisis entre l'ours, la tortue, le dragon.
Voilà. Alors, le dragon étant plus asiatique. Et puis, le papillon me paraît applicable à différents âges, à différentes possibilités. Alors, comme je vous ai expliqué, dans le livre, il y a toujours une partie de symbole. Il faut quand même savoir, et c'est intéressant par rapport à Grand Ciel, dans la Grèce antique, papillon et âme, c'était le même mot.
Oui, c'est intéressant.
Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, les Amérindiens pensaient aussi que les papillons étaient les âmes des morts. Le papillon, en fait, après, il y a une parabole. Ce n'est pas forcément un conte, mais que je trouve très intéressant, que je vous raconte vite. Un homme trouve le cocon d'un papillon. Un jour, il voit une petite ouverture et il passe plusieurs heures à observer le papillon qui essaye de sortir par le petit trou du cocon. Bon, mais... À un moment, le papillon n'avance plus, alors comme s'il ne pouvait pas y arriver. Donc l'homme décide d'aider le papillon. Et il prend des ciseaux et il coupe un petit bout du cocon. Le papillon sort facilement, mais l'ennui, c'est que le corps du papillon est gonflé, les ailes sont ratatinées. Et l'homme a observé qu'effectivement, le papillon a du mal à s'envoler. En fait... c'est bien d'avoir des sentiments de compassion. Par exemple, moi, je m'en sers pas mal par rapport à l'éducation des enfants. C'est pas le tout de leur mâcher tout et de les aider à sortir trop de leur cocon. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert en parabole religieuse, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il faut que la lutte exigée du papillon pour sortir par la petite ouverture est nécessaire pour muscler les ailes et permettre de s'envoler.
Ça doit être aussi ça, pour ça que, en fait, quand on vieillit, c'est plus facile, parce qu'on a déjà
Un peu plus développé, voilà. On a des muscles un peu plus développés. Alors après, effectivement, ce papillon, on peut aussi, pour rester dans le côté plus...
moderne aussi.
Plus moderne.
Je pense aux incubateurs.
Voilà, les incubateurs de start-up. C'est-à-dire que, effectivement, dans le papillon, il y a 4 étapes.
Hein. Oui.
Il y a l'œuf, il y a la larve, la chrysalide et le papillon. Et pour faire une start-up, il faut passer par les 4 étapes. Et Ça n'est pas un hasard si aujourd'hui on parle beaucoup et se développe des incubateurs de start-up.
C'est le même mot.
C'est le même mot. Oui. Donc, en général, ça va ensemble. Regardez, par exemple, ça peut donner des réussites comme Blablacar, qui a été une start-up française qui est quand même dans 19 pays aujourd'hui.
Oui.
Et qui fonctionne très bien sur ce principe, effectivement, d'héberger ou de transporter, effectivement, des personnes dans sa voiture. Donc, c'est un beau symbole. Et ces quatre étapes, eh bien, il faut effectivement les respecter pour arriver à déployer ses ailes.
Alors, maintenant, j'en arrive aussi à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est, en quelque sorte, le feng shui.
Oui.
Parce que ça aussi, c'est important.
Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur.
Oui.
Ça fait même tout un bouquin.
Ça fait un beau livre que je vous conseille, chers auditeurs, d'acheter d'ailleurs. L'animal que vous serez demain.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr, j'ai pris 12 animaux, j'aurais pu en prendre 50, mais c'est... Bon, je pense avoir essayé de réunir...
Alors, le feng shui.
Des choses. Alors, le feng shui. Bon, le feng shui, je l'associe davantage...
D'abord, ce que c'est.
Voilà, alors dragon, parce que... Dans la culture occidentale, nous, on avait les chiens et les gens et les géobiologistes. Bon, en Asie, ils avaient effectivement une culture du feng shui, c'est-à-dire fallait savoir où on mettait les palais.
Voilà.
Et dans la culture ancienne du feng shui, il y avait un dragon qui devait se trouver derrière la maison, etc. Pas très pratique pour nous d'importer le dragon, mais maintenant, nous, on a importé des méthodes avec la boussole qui s'appelle la boussole Pakua. P-A-Q-U-A, et vous cherchez effectivement des orientations que nous, on peut se réapproprier. Mais la seule chose que je vais vous dire sur le feng shui, parce qu'on n'a pas un temps fou, c'est déjà, le feng shui, c'est la bonne circulation d'énergie. Là-bas, ils appellent ça le ki ou le prana. Mmh. Eh bien, il faut savoir faire le vide. Et un exercice de feng shui, c'est de savoir ranger et faire le vide.
Eh bien, écoutez, un grand merci, Claude Maïka de Grèze, l'animal que vous serez demain aux éditions Guy Trédaniel. Un grand merci à vous et à bientôt pour d'autres ouvrages.